Examen de 12e. Devoir de compréhension orale. Année scolaire 2012-2013. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez 2 minutes à votre disposition. Écoutez l'enregistrement et cochez la case correspondante. Suivez l'exemple. Première écoute.
Canal Académie. Espace apprendre. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Jean-Jacques Hanau jusqu'à présent, le moment essentiel ?
Écoutez, le moment clé pour moi est sans doute le jour où j'ai été reçu à l'école de cinéma. Parce que je viens de la banlieue, d'un milieu de français tout à fait moyen, sympathique. C'était, comme on disait autrefois, des gens méritants qui avaient acquis, à force de travail, un petit pavillon de banlieue, avec un petit jardin, des fleurs. Donc j'ai eu une enfance tout à fait heureuse. J'étais fils unique, j'avais un petit chien, un papa, une maman adorable. Donc tout fonctionnait très bien. Sauf que lorsque j'ai eu, vers l'âge de 7 ans, l'envie de faire du cinéma, mes parents sont un peu tombés des nues. On savait pas du tout dans la famille comment on pouvait faire ce métier de saltimbanque. Oui, j'étais un tout petit gamin. C'est en recevant un catalogue d'appareils de photo et d'appareils de cinéma que j'ai eu envie de jouer avec ces mécaniques qui étaient associées évidemment au moment de rêve du samedi où l'on m'emmenait au cinéma de la petite localité et où d'un seul coup le rideau s'ouvrait sur un monde qui n'était pas le mien, qui était le monde du rêve, de l'aventure, des émotions. Car chez moi, si vous voulez, tout était très calme. Il n'y avait pas énormément d'émotions dans ma vie, tout était serein. Et du coup, j'ai eu très très tôt envie de m'aventurer dans ce métier étrange. Alors je me souviens, la première réaction des amis de mes parents était de dire « Quel dommage, un si bon élève
!» Vous avez quand même fait votre bac latin-grec, licence de lettres et
oui,
tout.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en fait en plus, parce que comme mes parents ne connaissaient personne, la seule manière de s'aventurer dans la vie était à travers l'école laïque et obligatoire. Et je dois dire que je suis infiniment reconnaissant reconnaissant à mon pays de m'avoir financé des études de qualité. J'ai été à l'école communale comme tous les enfants. Ensuite, j'ai intégré les écoles de cinéma nationales où j'ai pas eu un centime à débourser. Ça s'appelle aujourd'hui Louis Lumière et la Fémis. Ce sont deux écoles prestigieuses. Et comme il y avait quand même pas énormément d'argent à la maison, que mon père était assez malade, il était à la SNCF et il ne pouvait plus travailler plus longtemps qu'à l'âge de 58 ans, c'était le maximum à l'époque, ou bien je passais cet examen et je réussissais, ou bien j'entrais dans la vie professionnelle. Or, j'ai réussi bien, d'ailleurs, puisque j'ai été major de promotion, j'ai intégré l'école technique de photo et cinéma, qui s'appelle aujourd'hui Louis Lumière, qui est une très très bonne école où on apprend la technologie du cinéma, et c'est grâce à cette filière, alors tout à fait classique et officielle, que j'ai pu pénétrer dans le cinéma et me retrouver quelques années plus tard, à la tête d'une petite équipe, en train de diriger mon premier film. J'ai été metteur en scène à 19 ans et demi.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Canal Académie. Espace apprendre.
Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Jean-Jacques Haneau jusqu'à présent, le moment essentiel?
Écoutez, le moment clé pour moi est sans doute le jour où j'ai été reçu à l'école de cinéma. Parce que je viens de la banlieue, d'un milieu de français tout à fait moyen, sympathique. C'était, comme on disait autrefois, des gens méritants qui avaient acquis, à force de travail, un petit pavillon de banlieue, avec un petit jardin, des fleurs. Donc j'ai eu une enfance tout à fait heureuse. J'étais fils unique, j'avais un petit chien, un papa et une maman adorables. Donc tout fonctionnait très bien. Sauf que lorsque j'ai eu, vers l'âge de 7 ans, l'envie de faire du cinéma, mes parents sont un peu tombés des nues, on savait pas du tout dans la famille comment on pouvait faire ce métier de saltimbanque. Oui, j'étais un tout petit gamin. C'est en recevant un catalogue d'appareils de photo et d'appareils de cinéma que j'ai eu envie de jouer avec ces mécaniques qui étaient associées évidemment au moment de rêve du samedi où l'on m'emmenait au cinéma de la petite localité et où d'un seul coup le rideau s'ouvrait sur un monde qui n'était pas le mien, qui était le monde du rêve, de l'aventure, des émotions. Car chez moi, si vous voulez, tout était très calme. Il n'y avait pas énormément d'émotions dans ma vie, tout était serein. Et du coup, j'ai eu très très tôt envie de m'aventurer dans ce métier étrange. Alors je me souviens, la première réaction des amis de mes parents était de dire « Quel dommage, un si bon élève
!» Vous avez quand même fait votre bac latin-grec, la licence de lettres et
oui,
tout.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en fait en plus, parce que comme mes parents ne connaissaient personne, la seule manière de s'aventurer dans la vie était à travers l'école laïque et obligatoire. Et je dois dire que je suis infiniment reconnaissant à mon pays de m'avoir financé des études de qualité. J'ai été à l'école communale comme tous les enfants. Ensuite, j'ai intégré les écoles de cinéma nationales où j'ai pas eu un centime à débourser. Ça s'appelle aujourd'hui Louis Lumière et la Fémis. Ce sont deux écoles prestigieuses. Et comme il y avait quand même pas énormément d'argent à la maison, que mon père était assez malade, il était à la SNCF et il ne pouvait plus travailler plus longtemps qu'à l'âge de 58 ans, c'était le maximum à l'époque, ou bien je passais cet examen et je réussissais, ou bien j'entrais dans la vie professionnelle. Or, j'ai réussi bien, d'ailleurs, puisque j'ai été major de promotion, j'ai intégré l'école technique de photo et cinéma, qui s'appelle aujourd'hui Louis Lumière, qui est une très très bonne école où on apprend la technologie du cinéma, et c'est grâce à cette filière, alors tout à fait classique et officielle, que j'ai pu pénétrer dans le cinéma et me retrouver quelques années plus tard à la tête d'une petite équipe en train de diriger mon premier film. J'ai été metteur en scène à 19 ans et demi.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement et répondez aux questions. Première écoute.
Quand on parle du bac dans ce pays, on pense aux bacs généraux. Et quand on regarde les bacs généraux, ils sont articulés sur trois bacs, le bac S, le bac dit scientifique, le bac littéraire et un bac qui se veut plus équilibré, bac ES. Et on se rend compte qu'un de ces bacs, le bac littéraire, est actuellement en crise et que beaucoup de jeunes passent le baccalauréat S, non pas parce qu'ils sont scientifiques, mais parce qu'il a la réputation d'être le bac d'excellence, celui qui vous permettra de faire de fortes études. Donc ça pose déjà sur ce point un problème. Puis à côté, vous avez les bacs technologiques qui avaient été mis en place au cours de la Ve République pour faire face à une demande spécifique et pour une poursuite d'études ensuite dans des séries technologiques. Et on se rend compte maintenant que ces séries sont souvent envahies par des jeunes titulaires du bac général, ce qui pose pour les titulaires du bac techno un certain nombre de problèmes. Et puis enfin, il y a la création la plus récente, les bacs professionnels, qui n'ont pas pour vocation de vous préparer à aller dans l'enseignement supérieur, mais vous permettent d'entrer dans la vie professionnelle avec une formation générale d'un niveau important, et aussi une qualification professionnelle assez pointue, puisqu'il y a, c'est quand même assez étonnant, 72 bacs professionnels différents.
Canal Académie.
La meilleure défense du baccalauréat, c'est le fait que les Français n'ont pas envie de le voir disparaître. C'est un monument national, puisqu'il existe depuis 200 ans, c'est surtout un repère pour une génération. C'est un petit peu aussi un rite de passage. Être bachelier, ça veut dire être au-delà d'une certaine époque. Avant, on prépare le bac, on est un lycéen et on n'est pas majeur, si on peut dire. Donc, c'est un moment important. Est-ce qu'il faut faire perdre aux jeunes un des derniers repères qui leur reste? Moi, je pose la question. Et je crois qu'avant de dire qu'il faut le supprimer, il faut être extrêmement prudent. C'est un des repères dans la vie d'un jeune. Et maintenant, c'est pas une minorité de jeunes qui est concerné par le bac, j'insiste là-dessus, c'est la majorité, la grande majorité d'une génération qui est confrontée à l'épreuve du baccalauréat.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Quand on parle du bac dans ce pays, on pense aux bacs généraux. Et quand on regarde les bacs généraux, ils sont articulés sur trois bacs, le bac S, le bac dit scientifique, le bac littéraire et un bac qui se veut plus équilibré, bac ES, et on se rend compte qu'un de ces bacs, le bac littéraire, est actuellement en crise, et que beaucoup de jeunes passent le baccalauréat S, non pas parce qu'ils sont scientifiques, mais parce qu'il a la réputation d'être le bac d'excellence, celui qui vous permettra de faire de fortes études. Donc ça pose déjà sur ce point un problème. Puis à côté, vous avez les bacs technologiques, qui avaient été mis en place au cours de la Ve République, pour faire face à une demande spécifique et pour une poursuite d'études, ensuite dans des séries technologiques. Et on se rend compte maintenant que ces séries sont souvent envahies par des jeunes titulaires du bac général, ce qui pose pour les titulaires du bac techno un certain nombre de problèmes. Et puis enfin, il y a la création la plus récente, les bacs professionnels, qui n'ont pas pour vocation de vous préparer à aller dans l'enseignement supérieur, mais vous permettent d'entrer dans la vie professionnelle avec une formation générale d'un niveau important, et aussi une qualification professionnelle assez pointue, puisqu'il y a, c'est quand même assez étonnant, 72 bacs professionnels différents.
Canal Académie.
La meilleure défense du baccalauréat, c'est le fait que les Français n'ont pas envie de le voir disparaître. C'est un monument national, puisqu'il existe depuis 200 ans, c'est surtout un repère pour une génération. C'est un petit peu aussi un rite de passage. Être bachelier, ça veut dire être au-delà d'une certaine époque. Avant, on prépare le bac, on est un lycéen et on n'est pas majeur, si on peut dire. Donc, c'est un moment important. Est-ce qu'il faut faire perdre aux jeunes un des derniers repères qui leur reste? Moi, je pose la question. Et je crois qu'avant de dire qu'il faut le supprimer, il faut être extrêmement prudent. C'est un des repères dans la vie d'un jeune. Et maintenant, c'est pas une minorité de jeunes qui est concerné par le bac, j'insiste là-dessus, c'est la majorité, la grande majorité d'une génération qui est confrontée à l'épreuve du baccalauréat.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement et complétez le texte comme dans l'exemple. Première écoute.
Qu'est-ce que le racisme ?
Le racisme, c'est la croyance qu'il y aurait plusieurs races. Et cette croyance vient de cette construction intellectuelle des scientifiques du XVIIIe et XIXe siècle qui prétendaient justement qu'il y aurait une race blanche qui serait la race supérieure. Et avec le dégradé de couleur, la race jaune, la rouge, et la race noire qui serait le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Voilà, c'est cette croyance en cette notion de race qui serait liée à la couleur de peau, à des traits physiques et des traits intellectuels qui seraient héréditaires et qui ne pourraient pas changer.
La notion de race a-t-elle un sens ?
Mais la notion de race n'a plus de sens en tout cas, parce que après, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme qui était basé sur une hiérarchie des races qui serait la race aryenne devenait la race, je veux dire, la plus...
était considérée comme la race supérieure.
Ouais, la race supérieure. Donc, il y a eu justement des scientifiques qui se sont mis au travail pour justement déconstruire cette notion de race et dire que biologiquement, ça ne tenait pas debout, voilà.
Comment nous définir alors ?
Comment nous définir comme individus ? Je pense que on n'a pas besoin de passer par la couleur de la peau ou par le genre pour se définir. Et je crois que c'est ce qui est problématique, c'est-à-dire que on a toujours tendance à vouloir restreindre une personne sur un élément qui constitue son identité.
Braquer sur un élément.
Oui, voilà, souvent.
Et le réduire à ça.
Voilà, le réduire à ça. Mais ce qui est dangereux, c'est que il y a même des personnes qui se braquent eux-mêmes sur une chose de leur identité en disant « je suis comme ça, je suis de cette religion, je suis de cette couleur ». Oui, voilà, mais je pense qu'il faut montrer la complexité de l'être humain.
Alors justement, c'est très complexe ces histoires de racisme. Répéter que la notion de race n'a pas de fondement biologique, ce qu'on sait, hein, d'accord, suffit-il à faire disparaître le racisme ?
Écoutez, bien sûr que non. Mais je pense qu'il faut commencer justement par déconstruire cette notion de race, parce que effectivement, ça paraît évident pour vous, mais il faut savoir que, par exemple, nous avons fait un sondage pour la sortie du livre « Mes étoiles noires », ben, il y a 55% de la population française qui pense qu'il y a plusieurs races. Donc je pense que ça, c'est un bon début. Déconstruire ces préjugés, comme il y a beaucoup de personnes qui pensent que les personnes de couleur noire courent plus vite. Donc je crois que il y a bien sûr beaucoup de travail à faire, parce que le racisme devient émotionnel. Quand vous l'intégrez, ça devient émotionnel. C'est-à-dire que vous avez des préjugés, des réticences vis-à-vis d'autres personnes et vous ne le savez même pas. Et donc, apporter de la connaissance, discuter autour du racisme, ça peut faire avancer les choses. Je pense qu'il faut une vraie éducation pour comprendre que le racisme, c'est avant tout une construction intellectuelle que nous pouvons déconstruire tous ensemble.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Qu'est-ce que le racisme ?
Ben, le racisme, c'est la croyance qu'il y aurait plusieurs races. Et cette croyance vient de cette construction intellectuelle des scientifiques du 18e et 19e siècle qui prétendaient justement qu'il y aurait une race blanche qui serait la race supérieure, et avec le dégradé de couleur, la race jaune, la rouge, et la race noire qui serait le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Voilà, c'est cette croyance en cette notion de race qui serait liée à la couleur de peau, à des traits physiques et des traits intellectuels qui seraient héréditaires et qui ne pourraient pas changer.
La notion de race a-t-elle un sens ?
Mais la notion de race n'a plus de sens, en tout cas, parce que après, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme qui était basé sur une hiérarchie des races qui serait la race aryenne devenait la race, je veux dire, la plus...
était considérée comme la race supérieure.
Ouais, la race supérieure. Donc, il y a eu justement des scientifiques qui se sont mis au travail pour justement déconstruire cette notion de race et dire que biologiquement, ça ne tenait pas debout, voilà.
Comment nous définir alors ?
Ben, comment nous définir comme individus ? Je pense que on n'a pas besoin de passer par la couleur de la peau ou par le genre pour se définir. Et je crois que c'est ce qui est problématique, c'est-à-dire que on a toujours tendance à vouloir restreindre une personne sur un élément qui constitue son identité.
Braquer sur un élément.
Oui, voilà, souvent.
Et le réduire à ça.
Voilà, le réduire à ça. Mais ce qui est dangereux, c'est que il y a même des personnes qui se braquent eux-mêmes sur une chose de leur identité en disant « je suis comme ça, je suis de cette religion, je suis de cette couleur ». Oui, voilà, mais je pense qu'il faut montrer la complexité de l'être humain.
Alors justement, c'est très complexe ces histoires de racisme. Répéter que la notion de race n'a pas de fondement biologique, ce qu'on sait, hein, d'accord, suffit-il à faire disparaître le racisme ?
Ben écoutez, bien sûr que non. Mais je pense qu'il faut commencer justement par déconstruire cette notion de race, parce que effectivement, ça paraît évident pour vous, mais il faut savoir que, par exemple, nous avons fait un sondage pour la sortie du livre « Mes étoiles noires », ben, il y a 55% de la population française qui pense qu'il y a plusieurs races. Donc je pense que ça, c'est un bon début. Déconstruire ces préjugés, comme il y a beaucoup de personnes qui pensent que les personnes de couleur noire courent plus vite. Donc je crois que il y a bien sûr beaucoup de travail à faire, parce que le racisme devient émotionnel. Quand vous l'intégrez, ça devient émotionnel. C'est-à-dire que vous avez des préjugés, des réticences vis-à-vis d'autres personnes et vous ne le savez même pas. Et donc, apporter de la connaissance, discuter autour du racisme, ça peut faire avancer les choses. Je pense qu'il faut une vraie éducation pour comprendre que le racisme, c'est avant tout une construction intellectuelle que nous pouvons déconstruire tous ensemble.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.